Les podcasts d'Au Poste sont en libre accès et ceci grâce à vos dons. Soutenez la riposte sur auposte.fr.
Bonjour et j'ai le plaisir pour ce nouveau numéro de La Boîte Noire de recevoir Richard Verly. Richard Verly qui a un grand parcours de journaliste. Il est éditorialiste international aux médias suisses Blick. Et il a commis un petit ouvrage, reportage-essai, on va dire ça comme ça, avec un titre assez offensif, parce que si vous le lisez, ça s'appelle « Cette Amérique qui nous déteste ». Et donc, avec Richard, on va plonger dans cette Amérique. On va en savoir un peu plus sur qu'est-ce que t'appelles « Cette Amérique qui nous déteste ». Mais bien évidemment, c'est l'Amérique de Donald Trump, c'est l'Amérique de ce qu'on appelle les MAGA, Make America Great Again. Et donc, on va revenir au point de départ de ce livre. C'est notamment plusieurs voyages, je crois, que tu fais en 2024 et 2025, notamment en camping-car. Donc, c'est pour ça que j'ai intitulé l'émission Road Trip chez les MAGA. Et tu avais également précédemment couvert, soit pour le Temps quotidien suisse, je crois. Donc c'était pour le Temps, tu avais couvert l'élection présidentielle américaine de 2020. Voilà. Mais par ailleurs, tu connais les États-Unis depuis longtemps, tu en parles d'ailleurs dans le livre, on va revenir. Donc qu'est-ce qui t'a donné l'envie de parcourir les routes américaines, je crois, de l'état de l'Iowa, je crois, jusqu'à la Floride en 2024-2025?
Merci beaucoup, merci Marc de me recevoir. Effectivement, ce livre est né d'une question simple. Ce livre n'était pas prévu d'abord. Je pars pas aux États-Unis en 2024 avec l'intention de faire un livre. Je pars avec l'intention de couvrir la campagne électorale de 2024, celle de Donald Trump, j'allais dire comme des centaines, voire peut-être des milliers de journalistes internationaux qui à ce moment-là débarquent aux États-Unis pour suivre Donald Trump à la reconquête de sa présidence. Et je me pose une question très simple que tout le monde s'est posée, que tu te serais posé aussi si tu étais allé aux États-Unis, c'est qu'est-ce que je peux faire d'original ? Parce que s'il y a un pays où c'est difficile d'être original, c'est les États-Unis parce qu'il est tellement couvert. Et donc j'ai cette idée de partir avec un camping-car, donc de louer un camping-car dans un endroit, de le rendre dans un autre, et au fil de ce camping-car, de rencontrer l'Amérique MAGA dont tu as parlé, c'est-à-dire l'Amérique fédérée par Trump. Je dis fédérée parce qu'elle a différentes composantes, cette Amérique MAGA. Et quand je regarde la carte, nous sommes au mois de septembre 2024, l'élection a lieu le 6 novembre, et je regarde et je me dis que un assez bon itinéraire, c'est de partir du nord, donc Chicago, et de rendre évidemment le camping-car à Mar-a-Lago, puisque Mar-a-Lago, c'est la maison blanche bis de Donald Trump, dont on parle en ce moment quasiment tous les jours. Et cet itinéraire, il a deux avantages, de Chicago à Mar-a-Lago. D'abord, il permet de faire de l'Amérique du nord au sud et de traverser notamment toute cette zone désindustrialisée, disons blue collar comme on dit, qui maintenant a été complètement acquise à Donald Trump. Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, cet itinéraire, en faisant quelques détours, permet de traverser la Pennsylvanie, la Caroline du Nord, la Géorgie, qui à cette époque sont tous des états clés, les fameux swing states, et on pensait que le résultat allait y être très disputé. En fait, Donald Trump les a tous gagnés. Et puis, tu peux aussi, sur cet itinéraire, t'arrêter à Washington. Il fallait bien qu'à un moment donné, je fasse un stop dans la capitale fédérale pour rencontrer des gens. Donc voilà, je pars avec cette idée, camping-car, je le prends à Chicago, je le rends à Mar-a-Lago. Donc je prends ce camping-car aux alentours du 10 septembre, et pendant deux mois, jusqu'au tout début novembre, je vais raconter l'Amérique, je dirais, à hauteur de pare-brise. Alors je ne suis pas tout seul, j'ai un jeune vidéaste avec moi qui, par chance, aime conduire. Parce que moi j'avais quand même un truc auquel j'avais pas pensé, c'est que j'aime pas conduire. Je conduis mais j'aime pas conduire.
Ouais, en plus c'est un camping-car.
Voilà, c'est... exactement. Donc par chance, j'ai un jeune collègue qui aime conduire et nous voilà partis sur cet itinéraire. Donc pour ceux qui connaissent un peu la géographie des États-Unis, je pars de Chicago, je descends Ohio, Iowa, Michigan, traversée de toute la Pennsylvanie, qui était l'état clé le plus important, le plus décisif, Washington, la capitale fédérale, et ensuite on descend en ligne droite, donc d'abord Virginie, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Géorgie et Floride. Et c'est ainsi que je commence à compiler mes reportages. Et pourquoi le camping-car? L'autre raison, la première, c'était, je dirais, la facilité, la mobilité, voilà, tout ce que permet un camping-car. La deuxième raison, c'est que j'étais à peu près convaincu, et je me suis très vite rendu compte que c'était vrai, donc tant mieux, que j'allais rencontrer l'Amérique MAGA. Pourquoi? C'est parce que quand tu voyages en camping-car aux États-Unis, je le dis pour ceux qui seraient intéressés ou qui l'ont déjà fait, tu as trois endroits autorisés. Si tu veux faire les choses dans les règles. Bien évidemment, tu peux aussi dormir n'importe où, mais à tes risques et périls, dans un pays où quand même tout le monde est armé, enfin, ça peut être un peu périlleux. Donc, soit tu descends dans des campings, ce qu'ils appellent aux États-Unis les campgrounds, où tout est aménagé pour ton camping-car selon sa taille, etc. C'est des sortes de motels pour camping-car. Ça, c'est la première possibilité. Et la deuxième possibilité, c'est de se garer, alors là, c'est permis, sur les campings de ces deux grandes surfaces que sont Costco d'un côté et Walmart de l'autre. Là, c'est autorisé. Tu peux y garer tes camping-cars. Et j'étais un peu pressûr qu'entre ces trois endroits, les campgrounds, Walmart et Costco, je trouverais l'Amérique du Trump. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai eu qu'à ouvrir la porte pour tomber sur cette Amérique MAGA qui s'apprêtait à ce moment-là à voter Trump.
Oui, d'ailleurs, je crois que dès le début, hein, le garagiste où tu loues, je crois me souvenir,
tout
il s'appelle Greg.
Greg.
C'est ça, qui donc dit qu'il vote Trump.
Voilà.
Il est gay, comme
c'est absolument
dis.
Tout à fait.
Il vote Trump, il est gay, et puis je crois que c'est un vétéran, hein,
voilà,
aussi. Hein.
Alors ça, c'était
donc
pas
pour
du,
le coup là,
ça c'était pas du tout prévu. C'est le hasard qui a fait les choses.
Lui il fédère plusieurs.
Absolument. Je loue ce camping-car. Là aussi, petit conseil à ceux qui seraient tentés de faire la même chose. Il y a une compagnie qui est très efficace, qui s'appelle Cruise America. Elle a un avantage, cette compagnie, c'est que tu prends le camping-car dans... Tu sais, l'Amérique, c'est immense, les États-Unis, c'est immense. Tu prends un camping-car dans un endroit et tu peux le rendre à un autre. Et ensuite, ils ont toute une organisation pour rapatrier les camping-cars, etc. C'est quand même pas négligeable, parce que s'il fallait revenir au même endroit, ça peut être très loin. On a quand même fait à peu près 5000 kilomètres. Et donc, j'arrive au garage de cette société, qui est au sud de Chicago, à Naperville. Et donc, il y a un garagiste qui m'attend. Enfin, tout ça est très codifié avec le contrat, exactement comme si tu louais une voiture. Mais c'était un peu plus rock'n'roll, parce que c'est des camping-cars, la mécanique est plus compliquée, etc. Et là, le type Greg en question très vite me branche quand je lui dis qui je suis, pourquoi je vais faire ça, etc. En me disant que lui, il va voter Trump, qu'il est gay, qu'il a été en Irak et que nous, les Européens, on comprend rien, qu'on n'a rien compris à l'Amérique, qu'on n'a rien compris à ce qui se passe aux États-Unis, qu'on est des trouillards, littéralement, etc., etc. Et là, c'était pour moi... Moi, je suis pas du tout anti-américain. D'ailleurs, je m'en explique dans le livre. Je suis pas du tout
Un registre. Dans la présentation, je t'ai présenté comme un amoureux déçu.
Voilà. Et je découvre un peu comme une gifle, si tu veux. Si t'étais giflé dès la première rencontre par un type qui dit « Vous, les Européens, c'est bon, quoi. On en a marre. Dégagez, circulez, il n'y a rien à voir. » Et donc, ça m'a mis tout de suite en condition... Et je dirais, la suite du voyage m'a prouvé que ce que disait Greg était partagé par une très très grande partie de l'électorat de Donald Trump.
On va revenir sur ta thèse et sur ton titre, mais avant de revenir sur ta thèse et ton titre, alors je dois dire, c'est pas qu'un reportage, parce que
oui,
tu...
C'est ça.
C'est aussi un peu une enquête, parfois intellectuelle, parce que tu vas avoir aussi des professeurs américains, des étudiants. Donc ça, c'est l'autre Amérique.
Oui,
c'est,
absolument.
C'est l'Amérique qu'on présente parfois comme les sachants. Mais tu cites également beaucoup de références, enfin tes références culturelles, cinématographiques, de livres que t'as connus au cours de ton parcours journalistique et dans ta jeunesse. Donc c'est une sorte de miroir, ce livre, par rapport à l'image que tu te faisais des États-Unis et telle que tu le vois maintenant aujourd'hui. Mais je voudrais qu'on parte de Trump.
Oui.
Parce qu'au début du livre, tu dis Enfin, tu cites Trump, dans mon souvenir, c'est la citation est la suivante, « Le pouvoir, c'est la peur ». Alors, c'est Trump qui dit, donc, « Le pouvoir, c'est la peur ». Est-ce que tu peux expliciter ça, notamment sur ce qui est une des composantes essentielles, on va dire, du gouvernement, de la gouvernance Trump, on va dire, et de la mmh. manière de faire de la politique par Trump, donc par la peur.
Bien sûr.
Et je compléterai ma question. Tu fais référence, bien évidemment, dans le livre, on va dire, au mentor historique de Donald Trump, qu'on a parfois tendance à oublier en France, mais qui est pourtant très important. Je veux parler de Roy Cohn.
Ouais.
Alors, Roy Cohn, j'explique rapidement, mais c'était l'avocat, un des avocats les plus puissants de New York, dans les années 80 notamment, avocat de la mafia, italo-américaine, mais pas uniquement. Et surtout, il a travaillé dans les années 50, parce qu'avant, il était procureur, avant d'être avocat, et il a travaillé avec McCarthy, le sénateur McCarthy, qui chassait les rouges, les homosexuels, et tout ce qui était anti-Amérique, d'après eux. Et Roy Cohn, par ailleurs, était homosexuel, au placard, comme on dit. Il est resté au placard jusqu'au bout, d'ailleurs. Mm-hmm. Mort du sida dans les années 80. Et Roy Cohn, c'est vraiment le mentor de Trump. C'est d'ailleurs lui qui dit, en gros, il faut toujours attaquer, toujours mentir, toujours avancer. C'est à peu près cette formulation-là. Et c'est quelqu'un qui fonctionnait effectivement sur la peur et même le chantage. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ?
Alors, il y a plusieurs choses dans ta question. D'abord, il y a la citation de Trump. Et elle est d'autant plus intéressante qu'on se rencontre et on discute au moment où la guerre a lieu au Moyen-Orient, au moment où Trump joue en permanence de la puissance américaine et met en scène cette puissance américaine, y compris, je l'ai encore vu il y a quelques heures, dans des clips complètement ahurissants, quasiment des clips de jeux vidéo, où il compare l'Iran à des clips de bowling, que la boule américaine va aller détruire en faisant un strike magistral. Trump est convaincu, et il s'en est expliqué dans ses livres, livres que bien sûr il n'a pas écrit, mais que d'autres ont écrit pour lui, notamment The Art of the Deal, mais ce n'est pas le seul, il a écrit 2-3 livres, Trump, dans lequel il explique qu'il a toujours eu comme principe, dans sa vie professionnelle de promoteur, d'homme d'affaires, de faire peur. C'est-à-dire d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour impressionner son partenaire ou celui plus exactement avec lequel il veut obtenir quelque chose. Donc, il a toujours utilisé cela. Il y a un exemple qui est très connu, mais que je cite, quand il jette son dévolu dans les années 80 sur Mar-a-Lago, le domaine qu'il possède.
Donc la grande propriété.
La grande propriété, le golf qu'il possède à Palm Beach en Floride. Il jette son dévolu sur cette propriété. Cette propriété, le propriétaire de l'époque, ne veut pas lui vendre. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Bien évidemment, il est énervé parce qu'il ne comprend pas qu'on ne veuille pas lui vendre et il sent qu'il y a une opportunité immobilière. Il décide d'y retourner et il dit au propriétaire en question, celui qui refuse de lui vendre, « Pas de chance pour vous, je vais acheter le terrain d'à côté, celui qui vous sépare de la mer, et je vais construire un immeuble de 20 étages, donc vous n'aurez plus de vue. » Et donc, il fait peur par cette menace, ni plus ni moins, qui à l'époque ne tient pas, mais il y a quand même des possibilités, il y a un terrain à vendre, etc. Donc Trump a toujours eu cette attitude qui consiste à utiliser la puissance de feu, pour employer une formule assez cow-boy, je dirais, il tire d'abord et il discute après. Il a toujours fait ça. Il dégaine, il tire et il discute après. Et effectivement, dans sa jeunesse, et là le film qui est sorti il y a quelques, que j'ai vu aux États-Unis,
The Apprentice
le montre très bien, à New York, celui qui va l'inciter, celui qui va en quelque sorte formaliser cette démarche, c'est Roy Cohn, qui est un avocat, je reviens pas sur son parcours, tu l'as très bien décrit, Roy Cohn qui va lui dire à Donald Trump, alors jeune promoteur aux dents longues, eh bien, si tu aimes jouer avec la peur, moi je vais t'apprendre à le faire encore mieux. C'est-à-dire, je vais t'apprendre non seulement à jouer de la peur, mais à en jouir. À jouer et à en jouir. Et je crois que c'est ça qui détermine. Et quand on voit ce qui se passe au Moyen-Orient, il faut bien comprendre qu'il y a chez Trump une part de jouissance dans la peur qu'il instille et dans la peur qu'il utilise. C'est pas seulement un instrument, c'est aussi un plaisir qu'il a. C'est assez triste à dire, mais je crois qu'il l'ubris, puisque c'est le mot qu'on utilise, il aime ça. Il aime l'ubris, il aime cet étalage de puissance. Il aime faire peur. Voilà, ça c'est très important. Et puis l'autre élément, je crois, que j'ai découvert aux États-Unis quand j'ai suivi Trump, quand j'ai rencontré ses partisans, c'est que il a ce génie, je ne sais pas quel autre mot employer, cette habileté suprême, si on ne veut pas utiliser le terme génie, que il utilise la peur. Il utilise la peur, mais ses partisans le lui pardonnent. C'est-à-dire que Trump, il est vu par ses partisans comme quelqu'un qui va en rajouter, comme quelqu'un d'excessif, mais ils lui font confiance pour, à la fin, prendre la bonne décision. C'est-à-dire qu'il a en lui... Et on verra si le Moyen-Orient, c'est quand même très mal barré, mais
on
si le Moyen-Orient,
ça,
voilà, il a en lui cette capacité à dire à son public, j'utilise la peur, j'y vais, comment dirais-je, sabre au clair, mais à la fin, je saurai prendre les bonnes décisions pour vous. Et ça, c'est quelque chose que nous, on a énormément de mal à comprendre. Parce que nous, on pense que le type est barjot, pardonnez-moi l'expression, on pense que le type est cinglé, mais son public... pense que, in fine, il prendra les bonnes décisions. Et pourquoi il pense ça? Et là, ça nous ramène à un truc américain qu'on a beaucoup de la peine à comprendre en Europe, qu'on a beaucoup de peine, pardon, à comprendre en Europe. C'est parce que Trump a réussi. Trump a réussi. Et la réussite en Amérique, la réussite matérielle, la réussite financière, même si dans son cas, ça a été trop rocambolesque. Il y a eu des faillites, il y a eu des sauvetages par des banques russes. Mais in fine, il a réussi. Et s'il a réussi, c'est qu'à la fin, il a pris les bonnes décisions. Et donc, l'électeur MAGA, finalement, il voit que Trump utilise la peur, mais Trump ne lui fait pas peur.
Alors, on va continuer, on va revenir un peu sur ta démonstration dans le livre, avant de revenir aussi à l'actualité, à la guerre en Iran, et également qu'est-ce qui a amené cette prise de décision, parce qu'elle va à l'encontre des promesses, on va dire, isolationnistes de Trump vis-à-vis de son électorat MAGA. Hein, et donc là, il y a beaucoup d'éléments en coulisses ou politiques qu'on va évoquer. Mais, alors, tu rappelles, pour expliciter cette... détestation du vieux continent européen de la part des partisans de Donald Trump, et là, pas uniquement les MAGA en tant que tels, mais également les inspirateurs, les idéologues qui sont autour de Trump, même si là aussi, on pourra revenir peut-être par la suite, il y a des clans, il y a des sensibilités différentes, il y a des clans. Mais tu rappelles que cette détestation chez Trump, elle est ancienne, et tu la dates même, tu dis... tout part, alors ça j'ai trouvé ça particulièrement intéressant, tu dis tout part de 1987 et tu expliques, donc en 1987, et tu rappelles, parce que c'est jamais rappelé, ou très peu, en tout cas c'est peu rappelé je trouve, en 87 donc il y a le crack financier, le lundi noir à Wall Street, gros crack financier, et tu expliques qu'en fait Donald Trump estime que ce krach financier est lié à l'époque à des décisions sur des taux d'intérêt prises par les Européens de concert. Enfin, c'est le début de ce qui deviendra ou de ce qui était en train de venir, je crois. Là, il faudra que tu m'expliques peut-être, mais la monnaie, enfin la future monnaie unique, le système monétaire européen, et donc c'est un début. On va dire prise de conscience européenne par rapport à la puissance du dollar, entre autres. Et donc, tu expliques que c'est en partie ces décisions, en tout cas estime Trump, qui aboutira à la crise financière de 87. Et donc, très tôt, il dit ce n'est pas possible, en gros. On se fait avoir par nos amis, enfin nos amis, par les Européens, à qui on a tout donné. parce que c'est son sentiment, plan Marshall et compagnie. Et donc, il réserve une pleine page dans un grand journal,
dans le
New York Times, pour expliciter son point de vue à l'époque. En gros, on s'est fait avoir par les Européens et il faut qu'on arrête ça parce que la grande Amérique peut pas, enfin, on peut pas le supporter. Et donc tu dis 87, c'est clé.
Oui. Alors il y a, je regarde en même temps.
Tu dis même qu'en 87, c'est à partir de là que l'ambition politique de Trump.
Tout à fait.
Tu rappelles une interview à la télévision où il en parle d'ailleurs, et tu dis que l'ambition politique de Trump pour le pouvoir politique naît de cette année-là.
Tout à fait. Alors, plusieurs choses, et je regarde l'écran qui est devant moi, donc je vois au fur et à mesure les commentaires, et je voudrais saluer tous ceux qui font des commentaires que je trouve vraiment intéressants. Première chose qui est toujours vraie, et qui se vérifie presque chaque jour. Trump est un homme des années 80. Ne l'oublions jamais. Les années qui l'ont défini, celles durant lesquelles il a fait sa fortune, après il l'a perdu, il a fait faillite, il a été sauvé, je le répète, par des banques russes, c'est pas net du tout.
Mais
les années où il déboule dans la, je dirais, il déboule sur le devant de la scène new-yorkaise avec un certain nombre de deals mémorables, c'est les années 80. Et c'est pas du tout un hasard, petite parenthèse, et il l'a encore fait hier ou avant-hier, il adore YMCA, qui est sa chanson culte. C'est vraiment les années 80 plein pot. Ça, c'est Trump. Et que se passe-t-il dans les années 80 ? Il se passe deux choses qu'il faut bien avoir en tête, et bien évidemment, les plus jeunes l'ont sûrement oublié, ou alors ils n'étaient pas nés. La première chose, c'est qu'à l'époque, les États-Unis sont en train d'être rachetés par le Japon. Le Japon est au fait de sa puissance économique et financière. Les compagnies japonaises, Sony notamment, sont les plus puissantes du monde. Et le Japon rachète à tour de bras des sociétés américaines jusqu'à racheter les studios d'Hollywood. Et Trump, quand il fait sa page dans le New York Times, dans lequel, c'est facile à retrouver, hein, vous tapez New York Times Trump 1987, vous retrouverez cette page, il égrène ce qui est exactement son programme d'aujourd'hui. C'est-à-dire, il faut être protectionniste parce que les Japonais sont en train de nous envahir. Donc, il n'y a rien de nouveau. Je dirais, la manière dont il se comporte aujourd'hui vis-à-vis des Chinois, c'est exactement ce qu'il avait en tête dans les années 80 contre les Japonais. Que s'est-il passé dans les années 80 ? Gardons-le en tête, c'est que les Japonais qui étaient au fait de la puissance en raison de la spéculation foncière notamment et du prix des terrains à Tokyo, le modèle japonais s'est écroulé et le Japon aujourd'hui n'est plus que la troisième ou quatrième puissance mondiale, pays très important industriellement mais qui est quand même plus du tout la puissance que l'on connaît. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, et là j'en viens à ce que tu disais, à cette époque, il y a une crise financière, un krach boursier, et Greenspan, Alan Greenspan, qui est le patron de la Federal Reserve, fait des appels de pied aux Européens en disant, en gros, je caricature pour faire simple, investissez dans la bourse américaine, venez en gros nous secourir parce que la bourse américaine va craquer. Et à ce moment-là, les Européens ne le font pas. Les Européens ne le font pas parce que effectivement, on est au début de l'idée qui va donner naissance à l'euro, à la monnaie unique européenne. Les Allemands, notamment, ne veulent pas venir au secours de l'Amérique financièrement. Ils estiment que le risque est trop grand. Et donc, les Européens vont infliger à Alan Greenspan une sorte de fin de non-recevoir en disant « Écoutez, votre crack, c'est votre problème. Nous, on a suffisamment à faire. » Et de ce moment-là, Trump considère que les Européens sont des trouillards, sont des lâches, des gens sur lesquels on ne peut pas compter parce qu'on les a gavés, notamment après-guerre, les Américains les ont gavés d'aide, tu citais le plan Marshall et autres. Voilà.
Et toi, tu cites les tracteurs,
ils
d'ailleurs.
Ils ont été gavés tels des oies, on pourrait dire. Les Européens, pour Trump, sont des canards qui ont été gavés par l'argent américain, mais qui refusent au moment opportun et au moment nécessaire d'aider l'Amérique. Et donc, voilà ce qui a fait l'engagement politique de Trump, c'est-à-dire le sentiment que l'Amérique est à vendre et qu'une puissance comme le Japon peut la racheter, c'est sa hantise, et on peut tout à fait reprendre ce schéma-là pour comprendre ce qui se fait aujourd'hui vis-à-vis de la Chine. Et la deuxième chose, c'est que les Européens ne sont pas des gens sur lesquels on peut compter, surtout pas en affaires. Ils sont là, il faut les utiliser, il faut qu'ils soient des vassaux, il faut qu'ils obéissent, mais ça ne peut pas être des égaux, et de toute manière, je le répète, c'est pas des gens, c'est pas des partenaires fiables. Et effectivement, dans les années 80, Donald Trump développe ce qui va devenir son programme, c'est-à-dire protectionnisme, frontières et impérialisme.
Alors, justement, par une pirouette, t'explique que, finalement, pour toi, Trump vise, dès le départ, d'abord les Européens, avant même la Chine. Et tu as une pirouette, parce que tu dis les géopolitologues ne seront pas d'accord avec moi, les spécialistes en relations internationales non plus. Alors justement, si je me fais l'avocat du diable par rapport à ta thèse... Alors, tu rappelles d'ailleurs que l'attention portée à la Chine est plus ancienne que Trump, parce que dès Barack Obama, les Américains se tournent de plus en plus vers la sphère pacifique. Et il y a des éléments structurels à ça, notamment le fait que les Américains n'ont plus forcément autant besoin du pétrole, justement, moyen-oriental, avec le gaz et pétrole de schiste. Ils deviennent exportateurs de pétrole et de gaz également. Et donc, ils regardent vers la Chine, qui en plus devient de plus en plus compétitive sur les technologies, sur le numérique, qui les rattrape, les dépasse. Et donc, tu dis... Dans le livre, non, mais en fait, Trump va faire comme avec le contre le Japon, ce que tu décris dans la 81, mais plus contre l'Europe que la Chine. Et donc tu dis presque, finalement avec la Chine, il va s'entendre. Alors, moi je te tourne la chose différente. Est-ce que justement, c'est pas un aveu de faiblesse de la part du shérif Trump?
Ouais.
De finalement s'entendre avec peut-être la future puissance internationale qu'est la Chine, et déjà puissance, mais du XXIe siècle. Parce qu'en fait, les Américains n'ont juste pas les moyens de s'affronter directement, malgré leur tentative de containment de la puissance chinoise, notamment sur le plan stratégique vis-à-vis de la Chine. Et est-ce que ce n'est pas le signe, en réalité, donc à la fois d'une faiblesse de la part de Trump, et donc de s'attaquer à plus faible, donc les Européens, et également une indifférence quand même portée vis-à-vis de l'Europe, c'est-à-dire une indifférence en termes d'intérêt. C'est-à-dire qu'en gros, nous, on est bons pour faire du tourisme, pour aller à Paris, pour à Washington, pour déjeuner avec de la cuisine française. Mais on n'est plus rien. Qu'est-ce que t'en penses de ça?
Alors, je crois que la relation que Trump entretient avec l'Europe, avec la Chine, est très différente. Et là, je parle de 2026, je parle de maintenant, je ne parle plus des années 80. Aujourd'hui, Trump a une vision, tout ça est très documenté, je ne fais que répéter ce que vous avez sans doute entendu par ailleurs. Trump a une vision hémisphérique du monde, c'est-à-dire chacun chez soi. Donc au fond, il a découpé le monde en tranches. Il y a la tranche Amérique. Cette tranche Amérique, elle concerne le continent américain et l'Europe occidentale. Et du nord au sud, tout ça est sous domination américaine. Ça, c'est la tranche du monde américaine. Notamment l'Amérique du Sud, qui évidemment, elle, doit être complètement sous domination américaine. Mais ça concerne aussi l'Occident. Et il n'a pas de problème à ce que la Chine exerce la même domination sur l'Asie orientale. À deux exceptions près, qui sont quand même notables. La première, c'est Japon-Corée du Sud, parce que ça, ce sont des alliés irréductibles des États-Unis et les Américains y ont des troupes. Donc ça, il ne lâchera pas le Japon et la Corée du Sud. Ça, il y a cette anomalie asiatique qui est hors de la sphère d'influence chinoise. Et pour l'instant... Taïwan, qu'il n'a pas encore décidé d'abandonner. Je dis pas encore parce que on sait pas de quoi demain sera fait sur Taïwan, mais pour l'instant, je rappelle qu'il a accepté il y a peu de temps, il y a quelques mois, un contrat, parce que tout ça s'est fait pour apporter de l'argent, d'environ 11 milliards de dollars d'équipement militaire à Taïwan. Mais à ces deux exceptions près, donc je rappelle Japon, Corée du Sud et Taïwan, que la Chine exerce son impérialisme sur l'Asie du Sud-Est, sur des pays comme l'Indonésie, comme le Vietnam, etc., il n'en a rien à faire. Il estime même que c'est normal. Et c'est la grande différence avec l'Europe. Au fond, Trump est d'accord, C'est un peu, on pourrait dire, sa mentalité Yalta. Il est d'accord pour un partage du monde avec la Chine. Ça ne lui pose pas de problème. Mais il n'est pas d'accord pour partager le monde avec l'Europe. Parce qu'il estime que les Européens, et il ramène toujours tout à la Seconde Guerre mondiale, il l'a fait à plusieurs reprises dans des discours, il l'a fait à Davos, pour ceux qui ont la curiosité de regarder le discours qu'il a prononcé au forum de Davos en janvier, pour lui, l'Europe a été sauvée par les États-Unis. L'Europe était destinée à mourir, après la Première Guerre mondiale et surtout après la Seconde Guerre mondiale, elle était à genoux et c'est les États-Unis qui, en débarquant, l'ont ressuscitée. Et donc, il a une vision complètement différente, sachant qu'en plus, il n'a pas d'amour pour la démocratie. C'est ça la grande différence. S'il avait une affection pour la démocratie, naturellement, il aurait une affection pour l'Europe. C'est assez logique. Il se sentirait une forme de connivence politique avec l'Europe. Mais la démocratie, Trump s'en fout. C'est pas son sujet. Donc, avec l'Europe, il voit seulement des pays qui sont riches, des pays qui ont donc les moyens de payer des armes, des pays qui sont divisés, donc toute division est exploitable, et des pays qui, de toute manière, au jour d'aujourd'hui, n'ont pas les moyens de se défendre tout seuls. Dans une guerre moderne, aérienne, avec beaucoup d'équipements antiaériens, etc. Donc il en tire les conséquences. Il, au fond, pour lui, les Européens, lui le prédateur, lui le grand prédateur, voit les Européens comme un gibier, à plumer, littéralement, alors que la Chine, il a compris que la Chine était un autre prédateur. Donc sa stratégie vis-à-vis de la Chine, pour l'instant, c'est une stratégie d'endiguement. On verra ce que donne le Moyen-Orient avec la question du pétrole, c'est un vrai test. Va-t-il aller jusqu'au moment où il met la Chine en difficulté au risque que la Chine riposte? On n'en est pas encore là, mais il n'a pas du tout le même rapport avec les deux. S'ajoute enfin à ça quelque chose que j'explique dans le livre, ce qui à mon avis joue beaucoup, c'est que Trump est un... Régulièrement, il vante, ou il évoque plutôt qu'il vante, ses racines européennes, puisqu'il est d'un père, du côté paternel sont des Allemands, du côté maternel sont des Écossais, mais il n'aime pas ses racines européennes. Il a un golf en Écosse, bon, il y va une fois par an en gros, il n'est jamais allé dans son patelin d'origine en Allemagne, et il n'a pas du tout la nostalgie européenne d'un Biden, par exemple. Je rappelle que Biden, Joe Biden, mettait toujours en relief ses origines irlandaises. Les Kennedy mettaient toujours en relief leurs origines irlandaises. C'est pas du tout le cas de Trump, et là, je suis obligé de citer cette petite anecdote qui, à mon avis, explique beaucoup de choses. C'est qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, donc on est en 1945-50, Trump grandit, il est adolescent. Son père est lui aussi promoteur immobilier, mais spécialisé dans les immeubles plutôt de classe moyenne. Son père s'appelle Fred Trump. Eh bien, son père a flirté dans les années 30, politiquement, avec l'extrême droite américaine. Une extrême droite qui regardait Adolf Hitler d'un assez bon œil. Et son père, bon, entre-temps, la guerre a eu lieu, les Américains ont gagné, ils ont institué les démocraties en Europe. Sauf que le père, il a un passif. Il est allemand. Et il était quand même d'extrême droite, ou quasiment. Et donc, pour faire oublier ce passif, il va se faire, pendant à peu près une dizaine d'années, passer comme suédois d'origine, notamment auprès de la communauté juive new-yorkaise, parce que c'est avec les juifs qu'on doit faire souvent du business à New York, parce qu'ils sont très implantés. Et donc, Trump va grandir dans cette espèce de dénégation d'identité, où on lui dit de ne pas revendiquer ses origines allemandes, on est après la guerre, hein, c'est quand même lourd les origines allemandes, et de se dire suédois. Et donc il a en lui une part, je dirais, d'Allemagne fantôme. Il n'a jamais assumé ses origines allemandes.
Alors, je rebondis sur une question, sur une remarque, mais qui n'est plus là, donc je n'arrive plus à la lire, mais c'est sur le terrain des magas, je crois. C'était, voilà, sur le terrain des magas, est-ce que les magas sont sur cette même politique type années 80 dont on parlait juste avant? Et je vais rebondir sur cette question-là. Donc, est-ce que les magas, finalement, ne sont que la continuation d'une Amérique qui a toujours été? Est-ce que justement, ton désamour par rapport aux États-Unis, c'est pas uniquement, enfin, c'est c'est pas le fait que tu voyais qu'une Amérique, ou tu préférais voir une Amérique plutôt qu'une autre, qui a toujours existé. Tu évoques le courant libertarien comme inspirateur du trumpisme. Le courant libertarien, justement, il soutenait déjà Reagan. Le slogan MAGA, d'ailleurs, vient de Reagan
tout
lui aussi. Tu évoques là à l'instant les origines finalement quasiment fascistes du père de Trump. Et j'évoquais tout à l'heure McCarthy. On est dans le fascisme
Absolument,
américain.
Tout à fait.
On est dans le fascisme
Très
américain.
Juste.
Et tu le rappelles aussi hein, dans le livre. Donc voilà, est-ce que, pour revenir à ton... Alors à la fois la question, est-ce que les MAGA tels qu'on on les représente aujourd'hui sont en fait la continuation de cette Amérique-là des années 80 voilà, qu'on voit d'ailleurs dans les films de l'époque. Hein,
Bien sûr.
Est-ce que c'est pas aussi cette Amérique-là que t'as mis un peu de côté dans ta découverte des États-Unis dans les années 60, 70, 80, quoi.
Alors, ça m'amène à deux ou trois précisions, et je vois d'ailleurs que dans les commentaires, certains y font allusion. Il est incontestable que Trump a la nostalgie du Reaganisme. Parce que Trump fait partie de ces gens qui, sans doute, que je sache, il ne s'est pas exprimé publiquement, mais on peut penser qu'à l'époque, il prend Reagan pour un rigolo. Ce que beaucoup d'Américains font à l'époque, ils prennent Reagan comme un rigolo, un acteur descendu de Hollywood, acteur de série B, qui a quand même été président du syndicat des acteurs, donc un acteur politicien, mais que personne ne prend vraiment au sérieux. Et très probablement à cette époque, Trump ne prend pas Reagan très au sérieux. Sauf que il veut, lui, ce qui l'intéresse, c'est l'héritage de Reagan. Et pour lui, Reagan a réussi sur deux fronts. Et le premier front, c'est que Reagan a cassé l'Union soviétique. Et comment Reagan a cassé l'Union soviétique, et vous allez voir mon analogie, il l'a cassé en se lançant dans une vraie fausse course aux armements, la fameuse guerre des étoiles, que les soviétiques ont essayé de suivre, et il s'est avéré qu'ils ne pouvaient pas parce qu'ils n'avaient pas les moyens financiers. On pourrait résumer d'une image, vous avez d'un côté la navette spatiale américaine qui vole, et de l'autre vous avez Buran, la navette spatiale russe, soviétique, qui ne volera jamais. Bon. Donc Trump est assez convaincu que ce modus operandi peut marcher avec la Chine. Se trompe-t-il ou pas, c'est une autre histoire. Mais il pense que les Américains ont les moyens de lancer une telle course à l'innovation que les Chinois, à un moment donné, vont craquer. Est-ce que c'est juste ou faux? Moi, je ne suis pas spécialiste de la Chine. J'ai quand même l'impression que la Chine est bien mieux armée dans cette course que ne l'était l'Union soviétique à l'époque. La deuxième nostalgie qu'il a de l'époque Reagan, c'est la capacité qu'a Reagan d'impressionner le peuple. C'est le populisme. Il est très admiratif de cette capacité, de Reagan l'acteur, de Reagan l'homme de spectacle. Et tout ce que fait Trump, avec sa méthode qui n'est pas celle de Reagan, il est beaucoup moins séducteur que Reagan. Reagan était un vrai séducteur. D'abord, c'était un homme beaucoup plus... Il était physiquement beaucoup plus beau que Trump, il avait de l'allure. Mais il va essayer de faire pareil. Et donc, Trump va... C'est ça le populisme de Trump. C'est de toujours se dire que je dois plaire aux foules. Je dois plaire aux foules. Et donc, il est très nostalgique de cet âge réganien. Après, qu'est-ce qui nous ramène sur le terrain que tu évoquais, sur le terrain géopolitique? Moi, je pense qu'aujourd'hui, Trump, il a devant lui trois routes et il n'a pas encore décidé complètement celle qu'il veut prendre pour les trois années qui lui restent à présider, puisque je rappelle qu'il a été élu, il a pris ses fonctions le 20 janvier 2025 et qu'il quittera normalement le pouvoir.
On a l'impression que c'est une éternité.
Voilà, il le quittera en janvier 2029. Puisque la Constitution l'oblige à quitter son poste. Il ne pourra pas se représenter car il a déjà exercé, il aura à ce moment-là exercé deux mandats. Les trois chemins que Trump a ouverts devant lui sont les suivants. Le premier chemin, c'est celui de la force. C'est le passage en force. Et on peut, quand on voit ce qui se passe au Moyen-Orient, on peut penser que c'est celui-là qu'il a choisi. Donc, utiliser à fond la puissance américaine, la puissance militaire américaine, pour imposer son agenda, impressionner ses adversaires, casser ses ennemis et imposer sa loi. Ça, c'est le modèle qu'on voit à l'œuvre au Moyen-Orient. On verra si ça fonctionne avec la République islamique d'Iran. Premier chemin, c'est le chemin de la puissance. C'est, en gros, je vous casse et on discute après. Le deuxième chemin, qui me paraît être plutôt celui qu'il veut prendre, c'est celui de je sais que je ne peux pas tout faire. Vous pouvez être à mes côtés, je vous respecte comme vassaux, éventuellement, mais c'est moi le patron. Autrement dit, il est dans une phase où, à un moment donné, il va être obligé quand même de s'assurer que les Européens le suivent. Il ne pourra pas faire que manier le bâton. Il va falloir qu'il fasse autre chose. Mon avis, c'est qu'il va venir avec les Européens, avec sa carte pétrolière. Comme il est en train d'assécher le robinet du Moyen-Orient, pour les raisons qu'on connaît avec la crise, il va faire des offres pétrolières aux Européens, peut-être en offrant du pétrole à meilleur coût aux Européens. En quelque sorte, il va dire aux Européens, vous voyez, il va les intéresser à leur alliance avec les États-Unis. Il ne va pas seulement utiliser le bâton, il va utiliser aussi la carotte. Et là, ça pourrait marcher, parce qu'un certain nombre de pays comme l'Allemagne sont tellement inquiets pour leur économie qu'ils pourraient être assez tentés de jouer le jeu. Et puis le troisième chemin qu'il a, et là, c'est le plus chaotique et le plus aventureux, c'est celui de l'homme de guerre. C'est celui qui, au-delà du Moyen-Orient, est capable de provoquer d'autres crises et, en quelque sorte, veut faire entrer les États-Unis dans une série de conflits. Pourquoi ? Parce que ça nourrit le complexe militaro-industriel américain. Et ça nourrit donc la croissance économique américaine. Donc voilà, à mon avis, là, c'est trois chemins. Le premier, c'est l'impérialisme classique. Le deuxième, on pourrait dire, c'est l'impérialisme avec nuance pétrolière. Le troisième, c'est une politique guerrière destinée, au fond, à renflouer les États-Unis par le complexe militaro-industriel.
Alors, on reviendra sur ton désamour, parce que tu m'as répondu...
C'est de ma faute,
j'ai mis deux questions en une, mais on reviendra sur ton désamour un peu après. Donc, comme tu évoques, on va dire, l'actualité, la guerre en Iran, je vais rebondir sur ça, et notamment par rapport au MAGA, parce que là, il va à l'encontre de son électorat. On voit d'ailleurs... en tout cas d'une partie de son électorat. On voit d'ailleurs aux États-Unis que les sondages d'opinion, bon, il faut prendre ça avec des pincettes, c'est des sondages d'opinion, mais montrent quand même qu'une majorité des Américains est contre la guerre contre l'Iran, ne la comprennent pas. Ils ont les commentateurs de la base trumpiste, Tucker Carlson en tête, qui ont une très forte audience sur les réseaux sociaux, pilonnent la Maison Blanche et Donald Trump de leurs éditos vengeurs. Ils critiquent les liens de Donald Trump avec Israël. En pointant, mais ce n'est pas que, il y a également les démocrates américains qui soulignent en gros que la décision de Donald Trump a été prise sur demande et sous pression de Benjamin Netanyahou. Voilà, qu'est-ce que tu en penses là, si on revient au terrain, on va dire, de la politique américaine? Tout ça avant les élections mid-term à l'automne 2026. Voilà. Est-ce que justement, comme tu disais tout à l'heure, oula, est-ce que tu fais... C'est la guerre en Iran. Hein. Mmh. Donc, est-ce que... Il fait des choix, comme tu disais tout à l'heure, avec un semblant de rationalité et tel que tu nous l'as décrit sur le plan de la géopolitique, mais je reviendrai dessus après.
Ouais.
Ou est-ce que, qu'est-ce qu'il fait là de sa base là ?
Bon, dans le cas du conflit actuel au Moyen-Orient, je pense qu'il y a deux éléments qui ont joué un rôle dans sa décision de frapper. Et de continuer à frapper, puisque pour l'instant, il est sur une logique de poursuite des frappes. Le premier élément, ne jamais l'oublier, et c'est sans doute le plus cohérent, c'est l'élément géopolitique. Je vais la faire courte. Si l'Iran n'avait pas de pétrole, je ne suis pas sûr que les États-Unis défendraient Israël aussi mordicus sur cette affaire. Parce que rappelons quand même que la fameuse menace existentielle sur l'État d'Israël, parce que c'est la formule, disons, consacrée, cette menace, elle n'était pas immédiate. Il y a quand même eu la guerre des 12 jours en 2025, et que même les Israéliens, j'étais en Israël récemment, admettent que le programme nucléaire iranien avait été repoussé de plusieurs années et que donc la menace n'était pas immédiate. Sauf que l'Iran a du pétrole. Et que c'est l'occasion pour Trump, l'homme d'affaires président, de faire coup double. Je shoote les Iraniens Et là, je shoote la menace contre Israël, qui est mon État préféré. Et je peux vous dire qu'en Israël, ils sont persuadés qu'ils n'auront jamais de président aussi proche d'Israël que Donald Trump. Mais en même temps, je mets la main sur les troisièmes ressources de pétrole mondial. Et donc, je sers, pardonnez-moi l'expression, le kiki à la Chine. C'est-à-dire, je mets la Chine en difficulté parce qu'en plus, le pétrole iranien est un pétrole de grande qualité qui n'a pas besoin d'être beaucoup raffiné et qui est donc un pétrole qui, sur le marché, a son importance tout à fait cruciale. Donc, il y a d'abord le calcul cohérent de j'engage la puissance américaine là où ça peut me rapporter. L'Iran, ça peut rapporter gros. L'Iran, ça peut rapporter gros. Je rappelle par ailleurs qu'il y a plein de pays arabes autour qui ont plein d'argent et que donc s'il fallait reconstruire l'Iran, il y aurait de l'argent et tout ce qui est à reconstruire, c'est des marchés. Trump est un promoteur et si demain il y a une Trump Tower à Téhéran, il sera sans doute très fier. Le modèle idéal étant une Trump Tower à Téhéran financée par le Qatar. Voilà. Et pour ça, il demandera le prix Nobel de la paix. Ça, c'est l'homme d'affaires président. La deuxième raison pour laquelle il s'engage, et là, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure sur le chemin guerrier, c'est qu'aujourd'hui, si vous regardez l'économie américaine, quels sont les leviers que Trump a à disposition pour créer des emplois ? C'est ce que sa base lui demande. Sa base MAGA, les blue collar, les cols bleus, pas bleu comme moi parce que j'ai une chemise en jean, mais bleu parce qu'ils ont des codes de travail et ils ont des habits de travail, eh bien, cette base lui demande des emplois, lui demande des usines. Ben, vous les faites comment, les usines les plus faciles à ouvrir ? Les usines les plus faciles à ouvrir, c'est pas les centres de stockage de l'intelligence artificielle, parce que ça, il faut quand même les construire. Ça demande du temps, ça va pas se faire en deux ans. C'est pas non plus les usines d'assemblage de voitures allemandes, parce que celles-là aussi, en imaginant qu'ils reviennent, il va falloir les construire. C'est pas les usines pharmaceutiques, parce que celles-là aussi, ça va prendre du temps. Les seules qui ne prendront pas de temps, c'est les usines d'armement. Parce que les usines d'armement, elles sont là, elles sont installées, les firmes sont américaines. Donc tout est assez simple. Et donc moi, je suis convaincu qu'il y a chez Trump le calcul qu'aujourd'hui, le levier le plus activable en termes d'emploi aux États-Unis, en termes d'usine, ben c'est fabriquer des obus, fabriquer des canons, fabriquer des F-35, fabriquer des missiles. Et donc voilà le Trump de 2026, le Trump géopolitique. C'est un Trump qui a toujours une obsession, mettre la main sur les ressources énergétiques parce que c'est elles qui seront décisives dans la compétition avec la Chine, d'une part. Et d'autre part, eh ben, une bonne guerre, c'est pas si mauvais pour l'économie.
Et donc, tu penses qu'au final, les MAGA iront dans ce sens-là, que les résultats seront là, sur le plan économique ?
Alors, moi, je pense que si on parle de l'électorat MAGA, y a un élément que je ne maîtrise pas, ou plutôt, il y a un élément sur lequel je suis perplexe, et il y a un autre élément sur lequel je suis plus positif. Je ne vais pas rentrer dans le négatif parce que là, il suffit de... Tout le monde dit que le pari de Trump est en train d'échouer économique. Donc là, il n'y a pas besoin de Richard Verli pour l'expliquer. Il suffit de regarder n'importe quel journal. Tout le monde explique que l'inflation va augmenter, que tout ça est un échec, que les tarifs sont un échec, etc.
D'ailleurs, depuis qu'il est arrivé, justement, sa politique économique, ça patine un peu.
Eh ben, j'en suis pas si sûr.
Ah ouais ?
Et je mets ça avec un point d'interrogation. D'abord parce que je constate que l'inflation, elle a quand même atteint un plafond aux États-Unis. Elle a continué d'augmenter pendant la première année de son mandat, mais elle a atteint un plafond. Et pourquoi elle a atteint un plafond ? Et c'est là tout ce qui va se passer dans les prochaines semaines ou mois est important. C'est parce que Trump a fait baisser le prix du pétrole. Le pétrole, c'est-à-dire celui qu'on met dans la voiture, du carburant, aux États-Unis. Et d'ailleurs, pendant son discours sur l'état de l'Union au mois de février, il a mentionné les prix du gasoil. Et c'est assez logique quand on y réfléchit. Les Américains sont autosuffisants du point de vue pétrolier. Les Américains exportent. Et qu'est-ce qu'il fait, Trump ? Au fond, il a demandé aux compagnies pétrolières américaines de faire un différentiel de prix. Vous ne vendez pas votre pétrole aux États-Unis au même prix que vous le vendez à l'étranger. Et donc, plus vous avez de clients à l'étranger qui payent cher, plus vous baissez vos prix pour le consommateur américain. C'est ça le calcul de Trump. Je vous amène des consommateurs... 3 points de suspension, les Européens. Je vous amène des clients qui vont acheter votre pétrole, dit-il à Exxon, à Chevron, à Mobil. Mais en échange, vous augmentez pas les prix à la pompe aux États-Unis. Est-ce que ça va continuer d'être tenable si les prix du pétrole explosent ? Je ne le sais pas. Mais pour l'instant, il avait plutôt bien réussi cet aspect. Deuxième chose qu'il ne faut pas négliger quand même dans son bilan économique, alors lui, il exagère les chiffres, il dit des centaines de trillions de dollars, mais il a un peu pré-récolté en promesses d'investissement en un an, avec son racket planétaire, il a un peu pré-récolté entre 20 et 30 trillions de dollars. Un trillion étant 1000 milliards. C'est-à-dire qu'il a une capacité d'investissement de promesses qui n'est quand même pas négligeable. Le Japon a promis, l'Arabie Saoudite a promis, la Suisse a promis, l'Union Européenne a promis, etc., etc. Donc, si les gens, si son électorat MAGA voit dans les États républicains poser les premières pierres d'usines, etc., bien sûr, les usines ne seront pas terminées. Les emplois ne se seront pas matérialisés, mais il y aura quand même l'impression que les choses changent. Et puis, troisième élément, j'en reviens, l'armement. Parce que ces usines-là, quand vous lisez que les patriotes, les fameux missiles antimissiles patriotes, que tout le monde en veut, que tout le monde en demande, ben, il faut les fabriquer. Et pour les fabriquer, il faut des chaînes de montage, il faut des ouvriers. Et ces entreprises-là, elles sont américaines aux États-Unis. Donc moi, je dirais que économiquement, il n'est pas sûr que le pari de Trump soit un échec. Il est trop tôt pour le dire. On va voir ce que ça donne. Et enfin, dernier élément, qui n'est pas négligeable non plus, c'est qu'on mesure à quoi l'avantage de la situation économique. C'est que si vous êtes dans une situation de paix, les gens sont exigeants. Si vous êtes dans une situation de guerre, ça permet à Trump de dire à son électorat « serrez-vous la ceinture parce que l'Amérique est en guerre ». Ça, c'est le cynisme absolu du personnage. C'est ce qu'il va faire. Il est en train de se retourner, ou il le fera vers son électorat, en disant « on est en train de gagner, mais la condition pour qu'on gagne, vous, mes amis de MAGA, c'est que vous continuez de vous serrer un peu la ceinture. » Et comme il le dit souvent, ces gens-là, ils voteront pour moi quoi que je fasse, même si je tue quelqu'un dans la 5e avenue à New York. Donc, il a réussi pour l'instant, et d'ailleurs les sondages le montrent, son électorat MAGA ne l'a pas lâché. Il continue de lui accorder le bénéfice du doute.
Alors, tu parlais du pétrole et de l'Iran. D'ailleurs, là, pour le coup, c'est un autre parallèle avec ce que tu disais sur les années 80, parce que tu évoquais la guerre des étoiles. Les Américains, ils ont également, entre guillemets, gagné la guerre froide, aussi sur le terrain énergétique, en réussissant à refaire plonger le pétrole, ce qui a, d'une certaine manière, avec l'Arabie Saoudite, et ce qui a permis aussi, au tout début des années 90, à l'éclatement de l'Union Soviétique. Mmh. Il vient de là aussi, c'est vrai. Donc, il s'en souvient,
bien
Trump.
Bien sûr, bien sûr.
Et donc, il peut faire effectivement ce pari-là par rapport à la Chine. On le voit d'ailleurs sur l'intervention aussi au Venezuela, qui était liée également pas mal à la question du pétrole, mais pas vis-à-vis du consommateur, comme tu disais, américain, mais plutôt, parce qu'on l'a dit, tu l'as dit, les États-Unis sont maintenant autosuffisants en pétrole, ils sont exportateurs, mais vis-à-vis de la Chine. Il y a effectivement tout le terrain aussi de bataille. Tu parlais de prédation économique, de racket, la question des ressources. Des terres rares, des métaux et compagnie. Donc ça, c'est tout le combat qu'il a avec les Chinois. Alors, à t'écouter, tu as parlé du complexe militaire industriel, du pétrole. Dans le livre, tu évoques aussi un retour aux années 30, mais des années 30, c'est avant celle du New Deal et de Roosevelt, et donc les années 20, les années 30, avant la crise économique de 29, où les grands tycoons américains faisaient à peu près tout ce qu'ils voulaient, vis-à-vis de la population américaine, j'entends. Donc, alors, pour revenir à la thèse de ton livre, justement, rien de nouveau sous le soleil, j'allais dire, par rapport aux États-Unis.
Alors, je vois pas mal de remarques sur ce thème, d'ailleurs, sur le thème. Les États-Unis ont toujours fonctionné comme ça. Au fond, ils ont toujours exporté la guerre, ils ont toujours vécu des guerres, et leur système capitaliste a besoin de guerre pour fonctionner. Enfin, c'est une des choses que je vois dans le chat.
Tout à fait.
Je crois que, en ce qui concerne le système américain, et ça, je dois dire que moi, c'est une découverte. L'Amérique continue de croire, pas seulement Trump, attention, une grande partie de l'Amérique continue de croire à l'industrie. Et ça, c'est pour nous, Européens, notamment nous, Français, qui avons beaucoup abandonné l'industrie. L'industrie a déserté. On a cessé de croire en l'industrie. Et les États-Unis ont cette caractéristique, Je dis les États-Unis comme société. Et tous ceux qui vont aux États-Unis, je vous suggère de poser la question à vos amis américains. À la fois, ils sont complètement dans la technologie et dans l'innovation. Ça, c'est la première chose, technologie, innovation, mais aussi dans l'industrie. Et qu'est-ce que c'est qu'Elon Musk ? Elon Musk, c'est quoi ? Elon Musk, c'est pas Amazon. Elon Musk, c'est pas M. Bezos avec ses entrepôts Amazon et ses colis Amazon. Elon Musk, c'est un industriel de l'innovation. C'est pour ça qu'il parle au clan MAGA. Elon Musk, c'est à la fois un homme de l'innovation, l'innovation suprême étant la conquête de Mars, la conquête de la planète Mars. Après, je ne dis pas que c'est bien, je dis simplement que c'est son objectif. Mais c'est aussi quelqu'un qui produit les voitures, Tesla. C'est quelqu'un qui produit Starlink, c'est-à-dire des équipements technologiques, et pas seulement, il ne s'occupe pas seulement de la communication, il produit les équipements. Et donc, je pense qu'il y a aux États-Unis encore aujourd'hui une ferveur industrielle que Donald Trump a compris. Et la deuxième chose, et là aussi, c'est là où Trump parle à l'imaginaire, et ça tient aux États-Unis ce qu'ils sont, le poids de la bagnole, les distances. Les États-Unis, c'est le pétrole. Les Américains ne croient pas, je ne parle pas des Californiens, je ne parle pas d'un certain nombre d'endroits où le solaire ou l'éolien peut être une ressource. Les Américains ne croient qu'au pétrole, parce qu'ils sont tellement attachés à leur mobilité personnelle. Quiconque va aux États-Unis, vous passez votre temps en voiture. Et de ce point de vue-là, Trump, il a un discours qui colle. Il dit aux Américains, je vais vous amener des usines et du pétrole. Eh bien ça, ça parle aux gens.
Alors, je voyais un commentaire tout à l'heure sur un risque de coup d'État. Je pourrais rebondir également sur le fait que la décision d'intervenir américaine a été passée sans le Congrès, sans la décision du Congrès, ce qui, dans le cadre de la démocratie washingtonienne, une caractéristique un peu particulière. En tout cas, les démocrates essayent d'aller sur le terrain du droit, mais ils ont du mal, enfin, du droit et du législatif, du pouvoir du Congrès. Et alors, justement, tu cites un professeur de l'université de Madison.
Oui, tout à fait.
Que tu rencontres à Washington, oui, d'ailleurs. Ouais. Hein, on va dire, il fait partie de ces Washingtoniens.
Bien sûr, bien sûr.
Comme on
bien
dit.
Sûr.
Il te dit quand même, il te répond à ta question, il dit, alors en parlant des Trumpistes, enfin des gens qui sont autour de Donald Trump actuellement à la Maison-Blanche, et même, on va dire, au gouvernement américain, ces types sont des liquidateurs, ils pensent qu'un nouvel ordre doit émerger, ils ne sont même pas nationalistes, en fait c'est une mafia anti-État qui rêve de gouverner le monde.
Oui. Alors ça, c'est un autre aspect où Trump, l'homme d'affaires qui... Trump, il a une obsession, comme beaucoup d'hommes d'affaires aux États-Unis, d'ailleurs aussi beaucoup d'hommes d'affaires en France, il déteste les impôts. Il déteste les impôts. Pour lui, le fisc américain, c'est vraiment Satan. Donc, il faut tout faire, et d'ailleurs, il a passé toute sa carrière à éviter de payer des impôts avec une légion d'avocats, ça vous rappelle quelque chose. Il y en a d'autres qui font la même chose en France et en Europe. Et Trump déteste l'État, parce qu'il estime que l'État, c'est l'État qui va mettre des règles, qui va empêcher de gagner, qui va empêcher d'utiliser les bonnes parcelles foncières. Il raisonne en promoteur qui veut toujours la meilleure parcelle au meilleur prix pour produire le meilleur immeuble. Et là, dans son côté, j'allais dire, libéral barbare, appelons ça comme ça, libéral archaïque, il rejoint les libertariens qui, eux, détestent l'État pour les mêmes raisons, mais ils sont dans un autre univers, les libertariens. Eux, c'est pas une question de parcelle à New York qui les intéresse. C'est pouvoir conquérir Mars. C'est avoir la liberté, je dirais, d'envoyer des fusées dans l'espace, etc., etc. Et donc, il y a, chez Trump et chez une partie des MAGA, cette détestation de l'État. Autrement dit, eux, ils vivent une société atomisée, une société des individus. Ils détestent le collectif. Ils veulent une société d'individus et ils estiment que leurs services, les services qu'ils fournissent à travers leur plateforme, sont le meilleur garant de la démocratie et de la liberté. Je vais m'expliquer, et ça nous ramène à leur critique de la démocratie, qui est la critique de la démocratie liée à l'État. Le sentiment général en Europe, ici en France, en Angleterre, en Allemagne, c'est que l'État est le redistributeur de la richesse. D'accord ? et qu'en redistribuant la richesse, l'État garantit aussi l'égalité, donc la démocratie. Parce que, en quelque sorte, l'État a pour but d'aplanir les dissensions et les divisions sociales et que c'est ça qui garantit la démocratie. Ça, c'est la conception social-démocrate, on va dire, européenne. Et le Parti démocrate aux États-Unis a été aussi dans cette veine, mais moins marqué qu'en Europe. Trump, lui, dit le contraire. Trump et ses amis de la tech, ils disent le contraire. Ils disent aujourd'hui, nos États, eh bien, ont été confisqués, ont été pris en otage par les minorités. C'est ça l'anti-wokisme. C'est-à-dire que, en gros, nos États se font piquer leurs revenus, leur argent, par des communautés. Alors, les Noirs, les LGBT, ces gens vivent de l'État. Ces gens, littéralement, j'emploie le mot parce que c'est celui que j'ai entendu aux États-Unis, sucent l'État, en quelque sorte. Ils sucent, ils aspirent les richesses de l'État. Alors que vous, le blanc travailleur, l'État ne vous donne rien. Et donc, vous auriez plutôt intérêt, vous, le blanc travailleur, parce que tout ça est très suprémaciste. J'ai vu ça dans le, chat, ouais, mais c'est très vrai. Vous, le blanc travailleur, il vaudrait mieux que vous soyez gouverné par Amazon. Si votre gouvernement s'appelait Amazon, au moins, on se préoccuperait de vous, etc., etc. Donc, vous avez les deux discours anti-étatistes qui se rejoignent. Le discours de Trump, qui est le ploutocrate traditionnel, pour lequel ce qui compte, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut et d'avoir la meilleure parcelle. Et le discours des libertariens technologistes, pour qui, de toute manière, l'État est mort parce que l'État a été confisqué par les communautés. Voilà.
Alors, tu fais référence effectivement à un commentaire précédent, à plusieurs commentaires précédents sur les suprémacistes religieux, d'ailleurs. Ça fait partie des éléments que tu notes dans le livre. C'est-à-dire cette autre Amérique MAGA, celle des évangélistes américains, qu'on retrouve d'ailleurs, là, pour le coup, très en soutien à l'intervention américaine contre l'Iran, très en soutien à l'égard d'Israël également. Et tu dis, nous, là, pour le coup, tu reviens aux Européens et au regard des Européens sur l'Amérique. Tu dis, les Européens ont oublié que l'Amérique était profondément religieuse, voire fanatiquement religieuse. Et tu t'en inquiètes, d'ailleurs, d'une certaine manière, aussi, quand même.
Oui, parce que je pense
que... Tu dis qu'il y a une bascule, quand même.
Ouais. Alors, il faut toujours faire attention quand on parle au nom des Européens alors qu'on est Français. Ayons la modestie. Bon, moi, je suis franco-suisse, et donc ça me permet d'avoir un peu de recul. Les Européens ne sont pas
évangélique
français.
Et pas
tous les Européens ne sont pas français. Au sens où tous les Européens ne fonctionnent pas avec nos codes français, tant en termes de fonctionnement démocratique que notre rapport à l'État, que notre rapport à la laïcité. C'est pour ça que j'en parle. La laïcité, c'est quelque chose de très français. C'est pas vous n'avez pas la même conception de la laïcité en Grande-Bretagne, vous ne l'avez pas en Allemagne, vous ne l'avez pas en Espagne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, prenons un peu de recul. Ce que les Européens ne comprennent pas, c'est que, et ça, ça ne va pas changer, c'est qu'aux États-Unis, qui est un pays tellement vaste, qui est un pays tellement grand, qui est un pays où l'État est dilué parce que c'est un État fédéral, votre communauté, c'est-à-dire ce qui fait votre ancrage social, si vous êtes quelqu'un de la classe moyenne, c'est votre Église. Ça, il faut bien le comprendre. Et ça, c'est dans tous les États-Unis. Ce n'est pas seulement la Bible Belt. Mmh. Ce n'est pas seulement cette ceinture sudiste de la Bible. C'est qu'aux États-Unis, l'Église, alors qu'elle soit évangélique, qu'elle soit protestante, qu'elle soit catholique, l'Église, elle est... pas seulement un lieu religieux, elle est ce qui va faire votre insertion dans le tissu social. À quelle église vous appartenez? Quel est votre pasteur? Et ça, c'est des choses qu'on ne connaît pas en Europe ou qu'on ne connaît plus. On l'a connu à une époque, mais on ne le connaît plus. Et les États-Unis fonctionnent comme ça. Et alors à ça vient se rajouter deux choses. C'est que Trump, qui n'est pas du tout religieux, pas du tout, il a jamais fait preuve de, on l'a jamais vu son zèle religieux, etc. Mais vous avez vu la photo récente où il était au bureau ovale avec autour de lui des pasteurs évangéliques qui lui avaient mis la main sur l'épaule. C'est que Trump, il a bien compris, pardonnez-moi l'expression, que la religion c'est l'opium du peuple américain. Et donc il en profite, il profite de ça avec un cynisme absolu. Donc vous avez cette réalité sociale. C'est que la religion occupe une place importante toujours au cœur de la société américaine, et Trump l'a compris, et donc Trump l'exploite. Il n'est pas religieux du tout, il s'en fout, mais par contre, il a compris le rôle que ça pourrait jouer. Et là, il a peut-être un problème, je vais vous surprendre, il a peut-être un problème, je dis peut-être parce que je ne sais pas si ça va se matérialiser, avec ce qui est en train de se passer en Iran. Parce qu'il y a une chose que j'ai entendue souvent aux États-Unis, ça peut étonner, c'est que les Américains, qui n'ont pas une bonne image de l'islam, ils accusent les Européens d'être islamisés, etc., mais ils respectent la religion des autres. Et donc, si son invasion de l'Iran, et là, ça va m'amener à Tucker Carlson, si son invasion de l'Iran, son agression, est perçue comme une agression au service d'un État religieux, à savoir Israël, contre des États arabes musulmans, ça, Shahbaz Magha ne l'accepte pas. C'est le paradoxe. Il n'aime pas les musulmans, il pense que les Européens sont islamisés, mais il pense par contre que la religion des autres chez eux, c'est leur droit et il ne faut pas aller les emmerder. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ils sont respectueux de la religion des autres chez les autres. Et peut-être va-t-il buter là-dessus, parce qu'il y a aux États-Unis une population qui est très respectueuse des religions, à condition qu'on ne vienne pas se mêler de ses affaires aux États-Unis, mais par contre que les musulmans soient musulmans chez eux, les Américains le respectent. Je suis très curieux de voir comment Shahbaz Magha va réussir à cet aspect pour le conflit du Moyen-Orient. Réagir à cet aspect en ce qui concerne le conflit du Moyen-Orient.
D'accord. Donc là, tu me réponds à une question que j'avais eue précédemment. Oui, tu m'avais répondu sur l'économie.
Voilà.
Tu m'avais répondu sur l'économie, mais il n'y a pas que l'économie aux États-Unis, il y a la religion aussi. Et sur le côté plus fanatisé, parce que là, tu m'as répondu sur... finalement, Trump, lui, il n'est pas religieux, il est cynique, mais autour de lui, il y a des fanatiques.
Oui, il y a des fanatiques de deux ordres. Il y a des suprémacistes blancs, c'est-à-dire des gens pour qui, en gros, tous les basanés feraient mieux d'être... En gros, ne méritent pas de gouverner. Voilà, pardonnez-moi l'expression, mais c'est ce qu'on entend.
Ou même de vivre, hein, parce voilà. qu'il y a des morts.
Donc, il y a des suprémacistes blancs, c'est très clair. Donc, chasse aux latinos, alors que les latinos ont élu Trump, c'est quand même extraordinaire. Chasse aux latinos illégaux. Il y a un seul noir, si je ne me trompe pas, dans son gouvernement. Je crois que c'est le secrétaire au logement, à vérifier si je me trompe, mais j'en suis presque certain. Donc ça, il y a des suprémacistes blancs, premier registre de fanatiques. Il y a des religieux. J.D. Vance est un catholique qu'on pourrait qualifier d'intégriste, hein, catholique très traditionnel, etc. Et puis, il y a des fanatiques de la technologie. Ça existe aussi, c'est un autre type de fanatisme, ceux qui pensent que la technologie va tout résoudre, qu'on va vous mettre des implants dans la tête, que demain c'est la technologie, voilà. Il y a trois types de fanatisme autour de Trump, et puis j'ai pas cité le quatrième, mais le quatrième, il a fondé l'Amérique, c'est le fanatisme de l'argent, c'est-à-dire qu'il ne pense qu'à l'argent, mais ça, je dirais, c'est la société américaine qui est basée là-dessus.
Et là, pour rebondir à ce que disait l'universitaire sur mafia anti-État, c'est aussi une caractéristique de Trump. Alors, parfois, on l'a un peu caricaturé comme, justement, tu disais tout à l'heure, shérif, mais en mafieux, et notamment par rapport à ses liens avec la mafia, les mafias new-yorkaises, et pas uniquement italiennes, mais également russes de l'Est, mais également la mafia juive new-yorkaise, qui est en fait la mafia de l'Est et des russes. La reine mafia, comme on dit. Tout à l'heure, tu l'as dit à plusieurs reprises, je voudrais maintenant qu'on revienne sur ça, tu soulignais qu'à plusieurs reprises, son business à Trump, dans le passé, dans les années 90 notamment, et même dans les années 2000, a été plusieurs fois sauvé par des intérêts financiers russes, mais en fait mafieux. C'est un aspect... Aux États-Unis, on en parle beaucoup, un peu moins en France, mais du dossier Epstein qui a éclaté nouveau,
j'allais dire. Bien sûr.
Et alors, il éclate également par rapport à des dissensions internes, on va dire, au Trumpisme, parce que il faut se rappeler qu'au printemps dernier, c'est notamment Musk qui a sonné la charge par des tweets vengeurs en expliquant que Donald Trump était compromis dans les dossiers Epstein. Donc Epstein qui était lié également à ses intérêts mafieux, hein, en réalité. Il y a des journalistes maintenant qui montrent que dans les années 80, dans le milieu de la finance, on parlait de Wall Street, Jeffrey Epstein et Donald Trump se connaissaient déjà. Il y a des révélations régulières dans la presse américaine. Voilà. L'importance de ce dossier-là pour la suite du mandat de Trump. C'est pas une petite question.
C'est pas une petite question. C'est compliqué à dire parce que, d'abord, on ne sait pas, en tout cas, je ne sais pas, qu'est-ce qui va sortir encore comme document. Et je ne sais pas si on a tout sorti des documents qui sont déjà en ligne. J'ai l'impression qu'on n'a pas tout à fait tout sorti et qu'il y a encore des gens qui continuent de creuser et qui peuvent trouver des choses. Donc la première partie de la réponse, c'est qu'est-ce qu'on va trouver ? On a trouvé des trucs sulfureux, nébuleux, il aurait abusé d'une mineure, il y a eu des plaintes, etc. Mais on n'a pas trouvé le fameux smoking gun, c'est-à-dire l'élément de preuve imparable qui démontre qu'il a commis des actes légalement répréhensibles aux côtés du pédocriminel Jeffrey Epstein. Donc ça, c'est la première question. Et là, pardonnez-moi, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas ce qu'il y a, moi, dans ces dossiers. Est-ce que Musk le savait ou est-ce que Musk a voulu bomber le torse à un moment donné ? Je ne le sais pas. La deuxième chose qui va beaucoup influer, c'est évidemment la guerre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne parle plus de Epstein. Pourquoi ? Parce qu'on parle de la guerre. C'est le brouillard de la guerre. Et ça, c'est triste à dire. Mais on peut quand même penser que si Trump est allé dans cette guerre au Moyen-Orient, c'est pour créer un écran de fumée afin qu'on parle moins de l'affaire Epstein. Or, que va donner cette guerre ? On ne le sait pas. Au jour d'aujourd'hui, on ne le sait pas. Est-ce qu'elle va durer ? Est-ce qu'elle ne va pas durer ? Est-ce qu'elle va être une défaite ? Est-ce qu'elle va être une victoire ? Que va-t-il se passer ? Et puis, le troisième élément, c'est que je pense que même les électeurs MAGA, outrés du comportement de Trump, ça c'est mon analyse, mon intuition. Même ceux qui sont outrés de son comportement, et moi j'en ai rencontré pendant mon séjour aux États-Unis, qui me disaient « Richard, on sait que Trump est un mafieux. On sait que Trump est un sale type. Tout ça, on le sait. Mais c'est pas grave parce qu'il va nous rapporter. Le mettre au pouvoir à la Maison-Blanche, il va prendre des mesures qui nous rapportent. » Et donc, je crois que, in fine, même s'il y a la pire des choses qui s'amoncellent en ce qui concerne son implication dans l'affaire Epstein, si, et on va voir, il est capable de convaincre les électeurs MAGA qu'il leur rapporte, qu'il leur ramène des dollars, je rappelle qu'il veut leur faire un chèque de 2 000 $, etc. Eh bien, à un moment donné, les gens vont se dire, finalement, Trump, c'est un sale type, mais il nous a rapporté. Donc, n'oublions pas cette dimension. Ce que l'électeur américain veut, c'est que Donald Trump lui rapporte des dollars. Après, la moralité, on en discutera à un autre moment.
Alors, il y a justement une question qui rebondit sur ce que tu viens... Enfin, tu as en partie répondu déjà, mais ces dossiers sont vraiment... Est-ce qu'ils sont vraiment importants pour l'Américain moyen du fin fond des États-Unis ? Tu as en partie répondu. Alors, moi, je rebondis quand même, parce que l'affaire Epstein, ça a été quand même utilisé par Trump. Par le Trumpisme. Ils en ont fait un dossier complotiste, ils en ont fait un dossier contre les ennemis politiques de Trump, c'est-à-dire les démocrates, notamment avec la figure des Clinton. Ça serait trop long à expliquer maintenant, mais voilà, il y a quand même eu une mobilisation de la base, alors peut-être la base la plus militante des MAGA, mais notamment sur la question de la pédocriminalité, parce que là, on va au-delà de la morale, là. On va sur le terrain purement judiciaire.
J'entends bien tout ça. J'entends et
je comprends ce que tu me dis par ailleurs.
J'entends bien tout ça. Et je pense que s'il y a un smoking gun, donc un document, hein, vous savez, le fusil, la fumée qui sort du canon, du revolver, s'il y a le document fatal qui démontre... Par exemple, si on trouve un email où Trump dirait « Jeffrey, est-ce que tu as pensé à m'emmener la petite russe qui était si mignonne, etc. » là, ça aura un impact, évidemment. Mais ça aura un impact, attention, parce que les médias vont s'en saisir. Et c'est normal. Et les médias feront leur boulot. Mais les lecteurs MAGA, moi, je les ai rencontrés, ils en parlent de Epstein. Je lisais tout à l'heure sur le chat, tout le monde en parle. Oui, tout le monde en parle. Mais tout le monde parle aussi du reste. C'est-à-dire de ce que Trump rapporte à l'Amérique. Donc n'oublions pas cette dimension. C'est-à-dire que dans un contexte d'incertitude mondiale, dans un contexte d'angoisse mondiale que Trump contribue lui-même à générer avec sa guerre, je me demande, et je pose la question, est-ce qu'à un moment donné, les électeurs MAGA dégoûtés par Trump, finalement, ne passeront pas l'éponge parce qu'il leur rapporte et parce qu'ils ont reçu un chèque de 2000 ou 3000 dollars signé de sa main ?
Donc, encore une fois...
Pardonnez-moi, cynisme, je pense qu'il existe chez les gens aussi.
Donc le bâton et la carotte.
Le bâton et la carotte, parce qu'au fond, Epstein, vous avez beaucoup d'Américains et d'ailleurs de Français, je pense que si on ferait un sondage, pas mal de Français diraient la même chose. Oui, mais de toute façon, tous les politiciens font ça. Tous nos élites font ça. Epstein, il fournissait les élites, pas seulement Trump. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est qu'on s'occupe de nous. Donc, faisons attention à ça, nous, les médias, parce qu'on a tendance, dans notre lecture de l'affaire Epstein, à penser que notre dégoût moral... l'emporte surtout. Eh bien, je pense que chez un, notamment au sein de l'électorat populaire, le dégoût moral est réel, parce que les Américains sont des gens moraux, souvent, qui aiment être des gens bien. Donc, ils sont dégoûtés, mais avant de jeter Trump, ils vont se demander quand même qu'est-ce que Trump leur a rapporté. Et si Trump a ouvert une usine, ben, ils se diront finalement, l'usine, elle a quand même des emplois. Tant pis pour Epstein, regardons l'usine. Je me projette. Je fais de la spéculation, mais n'oublions pas cet aspect.
Pour revenir aux Européens, tu évoques dans le livre ta sidération, notamment de la décision de Ursula von der Leyen de dealer, comme elle a dit, avec Trump sur la question notamment du numérique. Et tu dis en gros ils ont pas combattu quoi face au rouleau compresseur Trump. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ?
Écoutez, sur la position de l'Europe institutionnelle et de Ursula von der Leyen, moi je suis très sévère sur la forme, moins sur le fond. Le fonds qui, par ailleurs, est remis en cause, puisque je rappelle que les tarifs de Trump ont été invalidés par la Cour suprême et qu'il va falloir, en quelque sorte, tout reprendre à zéro sous une forme ou sous une autre. Un accord à 15%, puisque c'est là où on est arrivé, 15% pour entrer sur le marché américain, qui est quand même l'un des marchés les plus importants au monde et les plus lucratifs au monde, c'est pas un si mauvais accord. Bien sûr, ça a un coût. On est d'accord. Mais ce n'est pas un si mauvais accord. Donc, les Européens, la Commission européenne n'a in fine pas si mal négocié. Ce qu'on peut lui reprocher, et vraiment, c'est plus que des reproches, ce qui a de quoi mettre en colère, c'est deux choses. D'abord que Ursula von der Leyen n'était pas dans son rôle et à sa place lorsqu'elle est allée signer cet accord sur le golf privé de M. Trump. Privé. Qui plus est dans un pays, le Royaume-Uni, qui n'est plus membre de l'Union européenne. Et ça, elle n'aurait jamais dû le faire. C'était une faute politique. On ne signe pas un accord qui décide du sort commercial de l'Union européenne dans un pays tiers sur la propriété privée de celui avec lequel vous signez. Ça, moi, je pense que c'était une faute politique majeure. Et la deuxième chose, c'est que pourquoi on s'interdit, nous, de taxer ceux qui profitent à plein de notre marché, c'est-à-dire les géants de l'Internet américain et les plateformes. Parce que, après tout, c'est ça qu'on devrait faire. Moi, j'ai pas de problème en tant que citoyen à admettre que nos entreprises qui exportent aux États-Unis doivent payer 15% de taxes. Mais pourquoi eux, ils en payent pas ? Pourquoi Amazon ne paye pas de taxes ? Pourquoi Google ne paye pas de taxes ? Nos données, c'est une marchandise. C'est même, paraît-il, la marchandise la plus prisée aujourd'hui. C'est le carburant de l'avenir technologique. Et donc, c'est ça le sujet. Le sujet, c'est qu'on a accepté, d'abdiquer complètement notre défense du marché européen sur le plan du numérique parce que Trump nous menace. Et ça, c'est très inquiétant, parce qu'en réalité, le numérique, c'est le pétrole de demain. Et en abdiquant notre capacité à réguler notre marché, eh bien, on le livre tout cru aux géants de l'Internet américain. Voilà les deux reproches que j'ai à faire. Pour le reste, les 15% sur les produits, 15% sur les bagnoles, 15% sur les vins ou plus, 15% sur le chocolat, franchement, ça peut être absorbé. D'ailleurs, les industriels n'ont pas dit le contraire.
Et dans cette relation Europe-États-Unis, un petit niveau, parce que c'est la France, mais les relations entre Trump et Macron, qu'est-ce que t'en penses ?
C'est fini. L'histoire est finie de toute manière. Dans l'esprit de Trump, c'est terminé. Macron n'existe plus. Macron, il aura fini son mandat dans un an. Il est là. Il est présent dans le paysage. Le président américain sait qu'il est obligé de le prendre au téléphone. Parce que quand même, il y a un minimum d'égard et son administration lui dit « vous êtes obligé d'eux », mais fondamentalement, il n'en a rien à faire. Macron ne compte plus, à mon avis. Il a peut-être, certains disent en France, il a une tendresse pour Macron parce qu'ils se connaissent depuis longtemps, ils se respectent. Tout ça, c'est possible. Moi, je ne suis pas dans le bureau des deux hommes lorsqu'ils sont ensemble. Mais fondamentalement, Macron ne compte plus pour Trump. Trump, il aime les winners. Il aime pas les losers. Et pour lui, Macron est un loser, c'est fini. De toute manière, il peut pas être élu. Donc, fin de l'histoire. Vous croyez vraiment que si Trump respectait Macron, son ambassadeur qui n'est autre que le beau-père de son fils, le beau-père de sa fille, pardon, puisque Jared Kushner est le mari de la fille de Trump, et le Charles Kushner est le père de Jared Kushner, vous croyez vraiment que cet ambassadeur se comporterait comme il le fait ? En France, il refuse d'aller aux convocations du Quai d'Orsay. Il fait de l'ingérence en politique. Vous pensez vraiment que l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique se comporterait comme ça si Trump était soucieux de ménager Macron ? Désolé, mais Trump n'en a plus rien à faire de Macron. Il est là, il le traite, entre guillemets, comme on dit. Il le traite, et puis c'est tout. Mais il ne l'écoute plus, et ça n'a aucune importance pour lui.
Mais pour toi, il l'a écouté ?
Oui, peut-être, à un moment. Je pense que à l'époque du sommet de Biarritz, c'était 2019, si je ne me trompe pas. Moi, j'étais sommet du G7 à Biarritz. Il y avait d'ailleurs eu une entrevue entre Macron et Trump. Et Macron avait fait venir les Iraniens, d'ailleurs, à ce sommet. Je pense qu'il y a eu un moment où Trump... Alors, est-ce que c'était Trump lui-même ? Ou est-ce que c'était ceux qui l'entouraient, qui n'étaient pas du tout ceux d'aujourd'hui, qui avaient quand même l'oreille ou qui prêtaient attention au président français? Je pense que sans doute, à une époque, Macron, qui à ce moment-là apparaissait comme un winner, Macron a eu l'oreille de Trump. Je crois plus du tout que ce soit le cas aujourd'hui.
Donc si, pour finir, si on t'écoute, toi, t'es plutôt dans l'analyse, t'es plutôt positif, optimiste quant aux chances politiques de Donald Trump, notamment par rapport au midterm fin 2026.
Alors, optimiste, non. Je pense qu'il va au-devant d'un terrain très miné, politiquement miné, et que quelque part, il mine lui-même avec cette guerre au Moyen-Orient qui peut se retourner contre lui. Or, les MAGA ne veulent pas de conflit. Ils ne veulent pas une nouvelle guerre comme l'Irak, comme l'Afghanistan, etc. Mais je ne le donne pas perdant. Voilà. Je ne suis pas optimiste, je ne le donne pas perdant. Parce que je pense que les électeurs américains attendront le dernier moment pour se décider s'ils votent pour des candidats trumpistes ou pas, et qu'il y a des variables de dernière minute qui peut-être feront basculer le scrutin. Je pense au jour d'aujourd'hui qu'il va les perdre, ces midterms. Je répète, je pense qu'il va les perdre. Je pense qu'il va, les Républicains vont perdre au moins le contrôle d'une des deux chambres, sans doute la Chambre des représentants. Ce sera plus compliqué au Sénat. Donc au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il perd, sauf que les élections n'ont pas lieu maintenant. Elles ont lieu au mois de novembre et que d'ici là, l'animal Trump peut encore trouver des subterfuges pour arriver à un écran de fumée qui lui soit favorable, voire remettre en question les élections. Mais ça, personnellement, je n'y crois pas.
Et juste pour rebondir sur une dernière question que j'ai vue dans le chat, on te répondait, et le puritanisme américain, par rapport à quand tu disais la morale, c'est...
Mais le puritanisme n'a jamais empêché le cynisme. Ils vont même de pair, le puritanisme et le cynisme. Donc oui, les Américains sont puritains, mais ils sont tout aussi cyniques. Autrement
donc,
dit...
hypocrite, pour dire
oui,
aussi...
Oui, c'est très juste, mais le puritanisme, c'est de l'hypocrisie, bien évidemment. Donc je crois que... oui, les Américains sont puritains, c'est très juste, en tout cas une partie d'entre eux, mais en même temps, lorsqu'il s'agira de voir quel est leur intérêt, eh bien, ils feront des écarts avec leur conduite religieuse officielle, surtout si ça leur rapporte des dollars sur leur compte en banque.
Et donc, pour terminer, tu es véritablement un amoureux déçu, alors ?
Moi, j'aime les États-Unis, je suis toujours amoureux. Je suis amoureux des États-Unis parce que je pense que c'est un pays... D'abord, professionnellement, en tant que journaliste, Marc, j'imagine que tu y es peut-être allé travailler aussi ou faire des reportages. Les Américains sont des bons clients, franchement. C'est très agréable de travailler aux États-Unis. Et les magas sont souvent très sympas, d'ailleurs. C'est très agréable, c'est des gens qui aiment l'échange, le débat, qui discutent volontiers. Donc moi, je trouve que c'est un pays où il est agréable de voyager, agréable de circuler, etc. Après, c'est peut-être une question de génération. Moi, je suis très culture américaine. Voilà, les années 80, 90, etc. Donc je continue d'être un amoureux des États-Unis. Je pense juste qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a une Amérique qui est une Amérique de plus en plus cupide, de plus en plus égoïste, de plus en plus impérialiste. Et il faut, au fond, c'est à nous, Européens, de convaincre les Américains qu'ils méritent mieux que Donald Trump.
Bon, et ben on va terminer sur ces mots. On pourra retrouver la vidéo bientôt sur YouTube. Tu veux rajouter quelque chose ?
Non, dire que c'était un plaisir et je suis formidablement impressionné par la qualité du chat. Donc je vois que tous ceux qui étaient là.
C'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, ils étaient très nombreux.
Beaucoup connaissent les États-Unis visiblement. Et donc je suis sûr qu'il y en a pas mal qui tout ce qui a été dit complète assez bien ce qu'on a dit. Donc merci à vous tous.
Bah, merci à vous. À bientôt.
Abonnez-vous, les amis, c'est David Dufresne. Abonnez-vous, c'est important. Bon, la technique, c'est pas toujours ça. C'est artisanal, on est entre nous. C'est au poste, auposte.fr.
Attention, oui. Ça va être dans le clip.
Postez-vous l'abonnement. Non, abonnez-vous au poste.
J'encourage, faites un don à au poste. Ah non, c'est là la caméra.
Adonnez-vous au poste. Adonnez-vous au poste.
Et faites des dons à au poste. J'espère que tout le monde dans le chat, que tout le monde ici fait des dons à au poste. Il faut donner
des
l'argent
dons,
pour
abonnez-vous.
Que ça existe.
Amis du café, amis de la police, adonnez-vous au poste.fr. Au poste.fr. Adonnez-vous.
On vous remercie tous pour vos dons, c'est cool.
Désarmer le récit, c'est important. Ça passe par quoi ? Ça passe par muscler les médias indépendants. Voilà, soutenir au poste.
Abonnez-vous !
Donnez plein d'argent.
Il a raison, abonnez-vous à au poste et à Mediapart, ou deux.
Abonnez-vous !
N'oubliez pas, on a besoin de dons et de donateurs. Merci beaucoup.
Au poste.fr, y a pas mieux.
Ah, on se moque de moi là, Bompard soutient au poste, mais devant la mauvaise caméra. Celle-là, elle est bonne ou pas ? Faites un don à au poste, faut pas que ça soit qui reste. Donc je disais, il faut bien que vous provoquiez du débat, il faut provoquer du sujet, pour provoquer du sujet, il faut créer de la conflictualité.
Et comment je vais rester indépendant si Bompard il demande aux gens de faire un don ?
Oh, ouais, c'est vrai ça.
Tout ça n'existe que grâce à vous, parce qu'on est indépendant et on ne vit que grâce aux dons. Donc voilà, merci.
Et abonnez-vous.
Abonnez-vous au poste.fr, au poste.fr.
Bravo.
Abonnez-vous au poste.fr, au poste.fr.